voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Barbara Cassin.
Bonsoir, Barbara Cassin.
Bonsoir.
Vous êtes helléniste, philosophe, philologue. Vous avez été directrice de recherche au CNRS. Vos livres ont pour sujet la sophistique, la langue, la traduction, Lacan aussi. Vous avez également coordonné des ouvrages collectifs, notamment le Vocabulaire européen des philosophies, qui a été publié au Seuil en 2004. Vous avez rencontré René Char, Martin Heidegger, Lacan, nous en parlerons cette semaine. Et depuis mai 2018, vous êtes académicienne. Vous avez été élue début mai à l'Académie française. Alors, pour commencer, une question. Qui fera votre discours de réception et de qui ferez-vous l'éloge lorsque vous serez reçue?
Je serai probablement réceptionnée en septembre 2019. Mon discours de réception, ce sera l'éloge de Philippe Bossan, qui était musicologue, spécialiste du baroque, et que j'ai croisé lorsque j'étais présidente de commission au CNRS, puisque la commission 35 dont je m'occupais s'occupait aussi de musique, donc de Versailles, et des unités dont s'occupait Philippe Bossan. Et puis je crois, mais alors là c'est des plans sur la comète, je crois que celui qui fera mon discours de réception, ça sera Jean-Luc Marion. Mais je n'en suis pas sûre, mais enfin, en tout cas, c'est un philosophe avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais bien. Ça pourrait être aussi Marc Fumaroli, ou voilà, je ne sais pas.
On va revenir, Barbara Cassin, à un plan plus chronologique. Vous aviez une mère qui était peintre, un père avocat, vous descendez de René Cassin, vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Paris. Dans quel quartier et dans quelle atmosphère?
Ma mère était peintre, mais d'abord mère de famille, et elle peignait, je trouve, magnifiquement, mais elle aurait bien aimé ne faire que ça, je pense, et c'était pas le cas. C'était d'autant moins le cas que mon père était peintre aussi. Et c'est dans un atelier de peinture qu'ils se sont rencontrés. Et que mon père, lui aussi, aurait voulu être peintre. Donc il était avocat pour nourrir sa famille et comme son père. Mais au fond, je pense que l'un comme l'autre aurait préféré peindre toute leur vie. Ceci dit, ils étaient, je crois aussi, très heureux d'avoir des enfants et de s'en occuper. Et moi, j'ai souvenir d'une enfance merveilleuse. J'étais la petite dernière. Ma sœur a 15 ans de plus que moi. Mon frère a 7 ans de plus que moi. Et eux sont nés avant la guerre, moi après. Comme peut-être l'une des composantes de mon bonheur, c'est que j'avais l'impression d'être une expression du fait que mes parents... Alors je vais mettre un subjonctif puisque je suis académicienne. Fussent encore en vie. Après la guerre. Et que ma mère m'a eu très tard, en fait, très tard pour l'époque, je ne sais pas, peut-être 38 ans, quelque chose comme ça, donc ça ne se faisait pas du tout. Et elle était en même temps ma mère et ma grand-mère ou mon amie. Et mon père était aussi très, très heureux d'avoir comme ça une petite dernière et une preuve de vie.
Votre sœur et votre frère ont eu aussi des métiers intellectuels?
Ma sœur était médecin, et puis alors elle a fait d'autres choses. Mais elle a d'abord exercé dans des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Et puis mon frère était ingénieur, et il a aussi fait d'autres choses. Et maintenant, il est champion de bridge.
Vous avez bien connu Barbara Cassin, René Cassin?
Pas du tout, je l'ai connu, je l'ai rencontré, moi, vraiment, une fois. Et c'était donc après 68, à un moment où je me demandais ce que j'allais faire exactement. Mon père m'a dit, va donc voir René. Donc je vais voir René et il me reçoit en disant, ah, tu es la fille de Pierre. Ah, Pierre, c'est le seul Tibien de la famille, il m'a jamais rien demandé. Et qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc je ne voulais pas grand-chose, en fait. Et je voulais plus rien après ce qu'il m'avait, après ce genre d'accueil. Alors il m'a quand même prodigué quelques conseils qui ont été. Qui sont rentrés par une oreille et sortis par l'autre, parce qu'il me conseillait d'aller voir des amis à lui qui étaient des philosophes, qui étaient à mes yeux de 68 tard de ce qu'on pouvait faire de pire. Dans le genre. Non, je ne vais pas donner de nom, mais enfin bon, ce qu'on pouvait faire de pire dans le genre réaction. Et en voyant que je faisais un tout petit peu la moue, il m'a dit bon, bah, écoute. À ce moment-là, ben, t'as qu'à prendre la sténo et je te ferai rentrer comme dactylo chez un de mes confrères. Donc ça s'est arrêté là, nos rapports.
Qui était-il par rapport à votre père ?
Ils étaient cousins. Et le père de papa a élevé en partie René lorsque le père de René est mort à Nice. Donc une partie de la famille est niçoise. Mon fils habite Nice aujourd'hui.
René Cassin, qui était l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Prix Nobel de la paix.
Et vous aviez, Barbara Cassin, une éducation, une éducation libérale ou...
Alors, vous savez, j'ai un peu de mal avec les mots. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, libéral. Vous pouvez me dire ce que vous entendez par là.
Le contraire de ce que vous avez dit, c'est-à-dire René Cassin, c'est-à-dire sans vous assigner à un métier et plutôt permissive. Voilà ce que j'entends par libéral.
Bah, disons que j'ai eu une enfance et une adolescence. Et en fin de compte, mes parents ont toujours été, pour moi, des gens très inventif et très généreux. Donc, j'ai jamais eu d'interdit et en même temps, probablement, j'en ai tout le temps eu, que je devais, en bonne petite fille, intérioriser tranquille. Mais alors, je me souviens par exemple que ma mère était quand même assez à cheval sur est-ce qu'on pouvait coucher avant le mariage ou des trucs comme ça. Mais je ne sais pas quelle réponse elle aurait fournie, mais je sais que la question se posait à peu près dans ces termes quand même. Et que quand j'avais un petit copain et qu'elle était là, jamais je ne dormais dans la même chambre que ce petit copain. Au point que ce petit copain, en l'occurrence, je pense à quelqu'un qui allait devenir mon mari, ce petit copain, lorsqu'il était dans la même maison que moi et que mes parents étaient dans cette maison, eh bien, et qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres, eh bien, ma mère préférait le faire coucher avec la jeune fille au père qu'avec moi. Et donc, il arrivait le matin en se frottant les oreilles, et en se frottant les mains et en disant c'est une Irlandaise qui sent le lait. Et ma mère ne rougissait même pas et ne se rendait pas, enfin, se rendait compte du ridicule de la situation, mais n'y remédiait point. Voilà.
Et vous aviez 20 ans en 68, donc on était.
Ouais.
Vos deux parents étaient juifs, Barbara Cassin. Est-ce que vous avez reçu une éducation religieuse?
Ah oui, mais catholique. Parce que, en fait, bon, si j'ai à résumer très rapidement ce qu'il en est de la religion pour moi et pour mes parents, quand mon père et ma mère se sont enfuis en zone libre, c'était dans le Béarn, à Navarinx. Et ma mère avait donc ses deux enfants avec elle, ma sœur et mon frère. Elle a été voir le curé en disant « Monsieur le curé, est-ce que vous pouvez baptiser mes enfants ?» Et le curé lui a dit « Mais bien sûr, madame, ils vont faire 3 ans d'instruction religieuse et je vais les baptiser. » Alors elle a été voir le pasteur et elle a dit « Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez baptiser mes enfants ?» Et le pasteur lui a dit « Non, madame, c'est complètement impossible, ils sont baptisés depuis 2 ans, voilà le certificat. » Moyennant quoi, ensuite, ma mère... Ne voulant pas que ce même type d'horreur puisse se reproduire à l'identique, m'a dit bah, « il faut que tu sois baptisé ». Alors, les protestants, c'est beaucoup mieux, mais comme catholique, c'est beaucoup plus difficile, je vais te faire baptiser catholique. Bon. Donc, elle a voulu me faire baptiser catholique, mais comme c'était une femme, je dirais profondément bien, c'est-à-dire elle ne mégotait pas sur ce qu'elle faisait. Donc, elle avait une amie, qui s'appelait Guy de Baraduc, qui était d'Auvergne, et qui était une amie très proche, Et elle était avec cette amie lorsque la fille Claire de Guy de Baraduc est tombée d'un arbre et s'est tuée. Et Guy de Baraduc s'est alors mise à genoux et elle a prié. Et maman m'a dit, je vais te confier à Guy parce qu'elle, elle croit et ça peut aider. Voilà. Donc j'ai suivi une instruction religieuse catholique, très bien faite, je dirais, parce que assez atypique. J'allais tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, quand les enfants étaient en vacances. Donc j'allais tous les jeudis chez les pères dominicains, dans un couvent, un grand couvent dont j'oublie un peu où c'était, mais enfin bon. Et là j'étais accueillie par un père, le père Rousseau, qui me faisait lire la Bible. Et on parlait. Et on lisait et on parlait avec... j'en ai un souvenir merveilleux. Et j'étais toute petite quand même. Hein. Je devais avoir, c'était peut-être, je ne sais pas, mettons, entre 8 et... Oui, ou 7 et 10, 12 ans, quelque chose comme ça, 7, 10 ans. Bon, et il m'a gentiment baptisée. Et puis, j'ai souvenir de conversations avec lui, vraiment, qui m'ont... Enfin, elles ont dû marquer, puisque je m'en souviens encore. Du genre, alors c'est quoi pour toi la vie? Je lui réponds, bon, c'est un atterrissage. Ah bah oui, c'est exactement ça. Bon, enfin voilà, ce genre de choses. Mais j'ai été à un certain moment dans un lycée où il y avait un cours d'instruction religieuse. Et ma mère, c'était le lycée de la Folie Saint-James à Neuilly. Et ma mère m'a dit, bah écoute, va voir le cours, peut-être qu'il faut que tu suives, enfin va voir. Et donc j'y suis allée, et là, en arrivant, interro écrite, acte de foi, acte de contrition, acte de charité, etc. Évidemment, je ne savais rien de tout ça. Alors, j'ai inventé un acte de foi. Et je ne sais pas comment c'était, mais enfin, en tout cas, je me souviens que le prof, puisqu'il était prof, ce curé, l'a lu la semaine d'après en disant « Voilà un acte de foi ». Et j'ai eu tellement honte, je ne sais pas, bon, j'y suis jamais retournée. Mais donc, voilà. Et... les choses se sont arrêtées toutes seules. J'aurais bien été un peu mystique. Je me relevais la nuit pour prier. Je trouvais ça assez passionnant. Et j'ai entendu mon oncle, le frère de ma mère, qui était un type qui ressemblait à Kafka dans mon souvenir. Enfin, il est mort assez... J'étais petite encore quand il est mort, mais il avait des yeux de chat, des yeux verts comme ça. Et un peu la gueule de Kafka. Et donc, je l'ai entendu dire à ma mère, « Ah ben ça, tu vas voir ce qui te prend au nez, cette petite fille, si gentille, tu vas en faire une bonne sœur. » Et donc, je me suis dit, ah, « Mais c'est vrai, peut-être. » Et au même moment, le père Rousseau est mort. J'ai été prise en charge par un autre père dominicain. Bon, je me souviens encore du nom. Il s'appelait le père Dagonier. Et il faisait des émissions le dimanche matin. Et lui, il était pas du tout le même genre. C'est-à-dire qu'il me faisait lire, il m'interrogeait. Enfin, c'était... Je sais plus comment ça se passait, mais je sais que j'en avais horreur. Et j'en avais horreur probablement rétrospectivement, parce qu'il m'a demandé de mettre dans la bibliothèque de mes parents des livres pieux, en disant comme ça, peut-être qu'ils vont se convertir. Je trouvais ça tellement scandaleux. Tellement pas comprendre du tout où on était, ce qui se passait, ce qui s'était passé, de quoi il s'agissait, etc., que j'ai jamais plus voulu y retourner. Et après, je ne suis guère retournée à la messe, sauf quelquefois à Noël, ou parce que encore c'est beau, ou parce que mes enfants avaient envie d'aller voir, et que j'étais tout à fait d'accord pour qu'ils aillent voir. Et je me souviens que mon fils aîné, je l'avais emmené à une messe de Noël, au sport d'hiver. Et en entendant les gens chanter, lui, il a chanté Ding Dang Dong, enfin, très très fort. Je trouvais ça très mignon. Voilà.
Peut-être que le père Rousseau, Barbara Cassin, vous a donné le goût de la pédagogie. Parce que c'est stimulant. Hein.
Mais j'ai rencontré un autre père Rousseau, mais qui était philosophe, et avec qui on s'est rencontrés sur les barricades en 68. Et c'était le père Stanislas Breton, qui était quelqu'un de très connu à l'Institut catholique, enfin qui a dû être, je sais pas, directeur des études, ou, enfin, et qui était génial. C'est-à-dire qu'il avait un rire absolu, il était d'une légèreté complète, et en même temps un paysan. Et donc, il a servi de babysitter à mes enfants. Il les a conduits au judo, partout, en faisant plein de bêtises. Enfin, bon, ils venaient déjeuner tous les mercredis avec mon père et ils s'entendaient comme larron en foire. C'était très, très adorable et lui était vraiment quelqu'un de formidable qui... peut-être la suite de la religion, c'est quand même que mon mari venait d'une famille hyper catholique, avec évêque, je sais pas, avec
évêque un dans la famille.
Évêque dans la famille. Son frère était curé, défroqué, mais curé. Une sœur était bonne sœur, celle qui habite en face de chez moi, défroquée aussi. Enfin bon, ça pesait lourd. Et puis les deux autres sœurs, c'était à peu près le même jus, quoi. Et la mère était visiteuse de prison, le père était notaire, président de la chambre des notaires, hyper catholique, de Chartres, donc bon, la France profonde, pleine de blé dans tous les sens du terme. Et voilà. Et donc ma belle-mère pleurait que ses petits-enfants ne soient pas baptisés. Et donc, je lui ai dit, mais écoutez, je suis complètement d'accord pour les faire baptiser. Sachez simplement que c'est pour une seule raison, mais à mes yeux, elle est parfaitement valable, c'est pour vous faire plaisir. Donc, je veux bien les baptiser pour vous faire plaisir. Mon mari résistait un peu, il n'avait pas tellement envie qu'il soit baptisé, mais enfin bon. Donc, on a fait un déjeuner avec le père Breton et ma belle-mère. Et le père Breton a dit, bien entendu... je veux bien baptiser les enfants. Oui, Barbara donne une bonne raison. On va faire un baptême œcuménique. Et ma belle-mère s'est levée en disant, mais c'est pas un vrai curé. Et elle est partie. Donc, voilà.
Et ça s'est arrêté là.
Non, ils n'ont pas été baptisés. Mon mari était très heureux qu'ils soient baptisés, je crois.
Barbara Cassin, il y a dans un de vos livres, je crois que c'est Éloge de la traduction, en exergue une phrase de Jean-François Lyotard. Sans... Le livre dont elle serait issue, donc je me suis demandé s'il vous l'avait dite, cette phrase, ou si elle venait d'un livre. Tu t'occupes des Grecs pour ne pas t'occuper des Juifs. C'est une phrase qu'il vous a dite ?
Oui, oui. Je pense que j'avais été scandalisée quand il me l'avait dite, et puis je pense qu'il ne s'est pas tellement trompé, peut-être. C'est peut-être pas complètement faux. Voilà.
Quand décidez-vous, Barbara Cassin, de faire des études de philosophie ?
J'ai décidé de faire des études de philosophie en classe de philo, parce que j'avais un prof à, je pense que c'était à La Fontaine, qui s'appelait Madame Motini, et qui m'a donné envie vraiment de faire de la philo, parce que elle posait des questions simples, elle attendait des réponses simples. Et il n'y avait pas besoin de savoir des choses, mais il fallait penser. Et j'ai trouvé qu'une discipline, enfin, que ce puisse être un métier de se demander si Dieu existe ou ce que veut dire la liberté, c'était tellement formidable que je ne voyais pas pourquoi je ne ferais pas ça. Et par ailleurs, j'étais la philo, ça se fait la dernière année. Donc j'étais bonne en classe, j'étais bonne en maths, j'étais bonne en lettres. J'aimais beaucoup faire du grec, du latin, etc. Ça aurait été, je crois, plus simple pour moi de faire des lettres. Je pense que si j'avais fait des lettres, j'aurais eu plus facilement un poste, j'aurais eu plus facilement l'agrégation, plus facilement, j'aurais peut-être été plus facilement normalienne, j'aurais peut-être été plus facilement, etc. Toutes choses que je n'ai pas eues et que je n'ai pas faites, ou que j'ai essayé de faire sans y arriver. Et donc, la philo, pour moi, c'était beaucoup plus de liberté. C'était un vrai... l'horizon n'était pas borné. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, et j'avais envie de le faire dès que j'ai été en classe de philo. Je me souviens par exemple de Motini. J'ai deux souvenirs très précis de ce prof. Le premier, c'est elle a demandé qui est Socrate. Et moi, en bonne petite élève, j'ai levé la main, j'avais une longue réponse qui était prête dans ma tête, et j'ai commencé par c'était un Athénien. Elle m'a dit ça suffit. Bon, je trouvais ça génial. Je trouve ça toujours génial quand on vous arrête sur quelque chose. Peut-être ça a à voir avec l'ascension psychanalytique, ça. Mais enfin, vous voyez, ça suffit. Ben oui, ça suffit. Alors, mais expliquer pourquoi ça suffit, ça, c'est d'écrire Socrate. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis, j'ai un autre souvenir, pendant, je ne sais pas, presque toute une semaine, je crois, elle nous a fait, alors, elle nous a demandé de raconter, d'écrire le récit d'un rêve qu'on venait de faire. Bon, donc on le fait, et le lendemain, elle nous demande de faire le récit de ce même rêve. Et le surlendemain, pareil. Et ensuite, elle nous demande de lire les trucs. Et on a vu à quel point ça s'appauvrissait avec une force, une vitesse, une violence. Bon, ce genre de truc, voilà, un très bon prof. Par ailleurs, j'ai jamais rien lu d'elle. J'ai juste vu qu'elle avait publié un truc chez Vrin qui s'appelait « Une ontologie strictement féminine ». Et ça m'a fichu une telle trouille que je ne l'ai jamais ouvert. Parce que j'ai un tout petit peu... C'est pas vrai, j'ai un tout petit peu ouvert. J'ai regardé et j'ai vu qu'au fond, l'expérience ontologique centrale des femmes, c'était l'accouchement. Donc ça m'a vraiment fait peur. Voilà.
Cette femme, elle vous a aussi donné envie d'enseigner.
Bon, je ne sais pas si c'est cette femme. Je crois que c'est merveilleux d'être avec des gens plus jeunes à qui on peut, ou plus vieux, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'était à des gens plus vieux que moi. Ce genre de partage inventif, c'est magnifique. Maintenant, le statut de l'enseignant, la salle des profs, ça ne me disait pas grand-chose. Donc, autant je n'avais pas envie d'être une prof patentée et de ressembler à ce que je voyais des profs, et de me retrouver coincée dans une salle des profs, autant je trouve qu'enseigner, c'est génial, et je regrette de ne pas avoir eu le loisir, la possibilité de le faire davantage. J'ai des souvenirs absolument merveilleux de ma première année d'enseignement, qui était une année de stage, où j'étais stagiaire de philo. J'avais donc plusieurs classes pour moi, enfin, dont il fallait que je m'occupe, et c'était Porte de Vanves, dans un lycée assez craignos. Oui, quelquefois, ils se cognaient dessus, mais enfin, ils trouvaient un peu scandaleux que je fume en classe, donc c'était pas si craignos que ça. Et puis...
Vous étiez une exception en fumant en classe?
J'en sais rien. Ça me paraissait tout à fait... Enfin, disons que ça me paraissait normal. Je ne l'aurais pas fait si on m'avait dit de ne pas le faire, mais quand les élèves disaient « Ah, elle fume !» Mais c'était un moment de ma vie très heureux, où j'avais une petite bagnole décapotable, complètement pourrie mais charmante, et un petit chien. Et comme j'étais stagiaire, on me filait des horaires épouvantables, j'avais 3 heures d'attente entre-temps, etc. J'allais le samedi matin à 8h30, et puis ensuite j'avais un cours à midi, ou un truc comme ça. Et je n'ai que des souvenirs merveilleux, et des mômes avec qui j'étais, et disons, de la manière dont tout ça s'intriquait avec la vie. C'était absolument magnifique. Moi, j'étais très heureuse d'enseigner, et je pense qu'ils étaient très heureux, les enfants, d'avoir un prof qui essayait de... Enfin, qui était normalement à leur écoute et à leur niveau, sans insister.
Vous avez eu, Barbara Cassin, des profs tels que vous étiez en classe prépa?
En classe prépa, j'ai eu des profs remarquables, pas quand j'étais en cagne, tellement c'était une espèce de machine à fabriquer des gens capables de concourir. Surtout que j'étais en cagne à Fénelon, donc c'était ce qu'on pouvait imaginer de pire. Mais en revanche, j'étais en hypocagne à Pasteur, et là, je n'ai eu que des gens géniaux, dont l'un d'entre eux est toujours, on est toujours des grands amis, c'est Michel Deguy, qui est poète et qui était à l'époque professeur de philo en classe préparatoire. En hypocagne à Pasteur. Et j'ai eu aussi, à ce moment-là, des élèves, des camarades de classe, que j'ai toujours gardés. Il y avait, par exemple, dans la classe au-dessous, il y avait Alain Libéra, qui est resté un très grand ami. Et puis, chaque prof avait son bout de folie qui le rendait encore plus intelligent. Voilà.
Et le bout de folie de Michel Deguy se traduisait comment ?
Lui aussi, il venait de recevoir le Grand Prix de poésie. Et alors, je pense qu'il ne préparait pas beaucoup ses cours, il n'avait pas besoin de le faire. Et il arrivait et il disait, tiens, on va lire un peu de Merlot. Alors, il lisait un petit peu de Merlot. Et puis, il disait, tiens, la dialectique, oui, il faudrait en parler. Bon, j'ai des souvenirs comme ça, mais c'est-à-dire que le monde s'ouvrait avec ce genre de folie-là. qui était, disons, une folie perméable entre la poésie, la philosophie. Bon, et le dernier cours d'Hippocagne, je m'en souviendrai toujours, le dernier cours de De Guy, il nous avait récompensé en lisant un poème de Char. Ils avaient lu La Sorgue. Et je trouvais que ce poème était vraiment gnangnan, nullard, quand il l'a lu. Et puis, il s'est mis à l'expliquer. Et il dépliait chaque bout, et c'est devenu génial. Et donc, devenu génial au point que ça m'a donné envie d'aller trouver le type qui avait été capable d'écrire ça. Et puis, 68 est arrivé juste entre. Et donc, De Guy, par exemple, à l'époque, avait une revue de poésie déjà. Et on avait fait chez moi, enfin dans un appartement dans lequel je n'habitais pas, parce que j'habitais encore chez mes parents, on avait fait une espèce d'université alternative avec, je sais pas, tout le monde passait, etc. Et moi, on m'appelait Miss Nouille parce que je faisais à bouffer des nouilles pour tout le monde le soir. Et là aussi, le monde s'ouvrait. Entre 68, politiquement, le fait que mes parents ne comprennent rien mais comprennent tout, ne partagent rien mais partagent tout, enfin, bon, je pourrais raconter des histoires assez étranges là. C'était magnifique à quel point l'inventivité politique, philosophique, poétique, littéraire se conjuguait. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes intéressée, Barbara Cassin, à la politique dans cette ébullition-là de 68, surtout à la philosophie et à la poésie? Est-ce que vous étiez tout d'un coup politisée
ou... Oui, enfin, ouais. C'est-à-dire que le monde politique s'est ouvert. Je ne comprenais pas de quoi parlaient mes parents quand ils s'inquiétaient de ce qui se passait en Algérie. D'un seul coup, j'ai compris que je pouvais être partie prenante de quelque chose. Et c'était magnifique. C'était magnifique d'intelligence, encore une fois. Et pour moi, les slogans de 68 ont assez peu vieilli. C'est ce qui a le moins vieilli, hein. Quand on dit laisser la peur du rouge aux bêtes à cornes, c'est toujours vrai. C'était vraiment, vraiment quelque chose dans lequel on ne pouvait pas, je trouve, ne pas participer.
Merci Barbara Cassin, à demain soir, et nous parlerons plus particulièrement de philosophie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Barbara Cassin. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Gilles Gallinaro, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.